Le journal, présenté par Mathieu Laurent.
Bonjour à tous. Nous nous rendrons dans ce journal au G7 de Biarritz, où il fut question ce matin du nucléaire iranien, où Boris Johnson et Donald Trump ont parlé commerce international. À Bayonne, les anti-G7 ont promené des portraits d'Emmanuel Macron décrochés des mairies pour dire leur incrédulité s'agissant des actes à attendre des puissants en matière de préservation de la planète. Également au sommaire, 200 000 Rohingyas défilent dans le camp de Kutupalang au Bangladesh pour nous rappeler qu'il y a 2 ans, les autorités birmanes perpétraient ce que les Nations Unies nomment un nettoyage ethnique. En fin de journal, des militants du Parti Socialiste rassemblés à l'Université d'été de La Rochelle et sollicités par Laurence Perron après le positionnement du premier secrétaire Olivier Faure, à savoir ni isolement ni dépassement. Un G7, c'est d'abord et avant tout un communiqué final, consensuel à souhait, mais un G7 est toujours percuté par l'actualité. Les multiples entrevues menées en amont par des escouades de Sherpas ne sont pas vaines, mais il arrive qu'elles soient outrepassées par l'urgence. Difficile de savoir d'ailleurs ce qui appartient à la mise en scène et ce qui survient. La crise syrienne, elle, la guerre en Syrie, ne date pas d'hier. Mercredi dernier, le président français déclarait d'ailleurs « Idleb ne doit pas être passé sous silence ». Bonjour Bertrand Galichet.
Bonjour Mathieu.
Bertrand, vous êtes en direct de Biarritz. Une autre urgence, le nucléaire iranien. Emmanuel Macron a en effet été chargé ce matin par le G7 de porter un message à Téhéran.
Oui, mais vous savez que le président américain crée souvent la surprise. On ne s'ennuie jamais avec Donald Trump, qui affirme certes soutenir la démarche d'Emmanuel Macron, chargé par le G7 de cette mission de dialogue avec Téhéran. Mais il aura, dit-il, sa propre initiative sur ce dossier. L'objectif était au départ d'éviter à tout prix que le régime des Mollahs se dote de l'arme atomique. La clé de cette affaire, vous le savez, est détenue par les États-Unis, qui se sont retirés de l'accord conclu en 2015, d'où les efforts de la France ici pour éviter que Donald Trump soit isolé face aux autres membres du G7. Jusqu'à présent, le président américain n'avait pas fait preuve d'un grand enthousiasme pour adhérer à cette politique. Il traîne même franchement les pieds dès lors qu'il s'agit de se rapprocher de Téhéran. Sa dernière prise de position il y a quelques instants n'est donc pas une grande surprise.
Et Bertrand, les rencontres bilatérales rythment ponctuent les G7. Et ce matin, première interface américano-britannique.
Oui, le courant visiblement est passé entre les deux dirigeants qui se sont entretenus à l'hôtel du Palais en début de matinée, mais tout n'est pas réglé. Donald Trump voit en Boris Johnson l'homme de la situation pour faire sortir son pays de l'Union européenne. Les deux dirigeants parlent de conclure un accord commercial majeur, fantastique, après la rupture qui doit intervenir entre Londres et Bruxelles. Un bémol quand même, Boris Johnson se plaint des difficultés que doivent affronter aux États-Unis les entreprises britanniques dans un marché qui, selon lui, offre des opportunités immenses. Les négociations vont donc se poursuivre entre Londres et Washington sur fond de Brexit, situation politique étrange alors que les autres pays européens présents ici à Biarritz ont récemment adressé une fin de non-recevoir à Boris Johnson sur ses demandes de renégociation du Brexit.
Merci à vous Bertrand Galichet en direct de Biarritz. Et l'Amazonie ravagée par les feux, qu'attendre de ce G7 ? Le chef de l'État bolivien lui attend des pays membres du traité de coopération amazonien une réunion d'urgence. Les incendies ont parcouru 920 000 hectares en territoire bolivien ces derniers jours et au Brésil. Des dizaines de milliers de soldats appuient les pompiers. Qu'attendre du G7 en matière de lutte contre la dégradation de notre cadre de vie ? Des déclarations de bonnes intentions selon les participants au contre-sommet ce matin. Troisième manifestation de jour, défilé à Bayonne, impulsé par des décrocheurs. Défilé suivi pour nous par Rosalie Lafarge.
Nous sommes tous décrocheurs de portraits.
Ils battent le pavé tranquillement sous l'œil attentif des forces de l'ordre. Et dévoilent progressivement leur prise. Des portraits dérobés, réquisitionnés, disent-ils, dans les mairies de Biarritz, de Lyon, de Paris, Strasbourg ou encore Irisari, il y a quelques jours au Pays Basque, et brandis à l'envers.
Parce qu'il ne mérite pas d'être à l'endroit.
Des portraits décrochés par des militants déçus par Emmanuel Macron.
Il a décroché de ses objectifs climatiques, les objectifs de la COP21. Il n'est pas champion du tout de la Terre. C'est un hypocrite.
C'est tous les dirigeants du monde entier qui sont mis en question et qui sont critiqués pour leur inaction climatique.
Ça veut dire quoi, madame, on est plus chaud que le climat ?
Ça veut dire que nous, on est tellement déterminés que on ne va pas les laisser faire. On a une énergie là, juste géniale.
Des écologistes, pour la plupart, qui ne croient plus en la grand-messe du G7.
Ça sert à rien de faire des grands débats. On sait très bien que ça va pas, que c'est l'économie qui prime, le capitalisme.
Ils en sont persuadés, le changement viendra de la société civile et de ce type d'action. Cécile Marchand est porte-parole d'Action non violente COP21 à l'initiative de cette marche.
En plein cœur de Bayonne, qui est normalement un lieu interdit à manifestation, on a décidé de ressortir les portraits présidentiels qui ont été réquisitionnés dans les mairies pour laisser un vide, en fait, un vide symbolisant le vide de la politique d'Emmanuel Macron face à l'urgence climatique et sociale. Et on décide de les ressortir en plein G7, où il joue la carte du président vert. Il suffit pas, en fait, d'être leader face au pire. Ce qu'on attend, c'est des actes concrets.
Les manifestants refusent l'image verte d'Emmanuel Macron. Les discours, c'est une chose, les actes en sont une autre. Et ils ont du mal à croire en la capacité du président français à convaincre ses collègues dirigeants, notamment Donald Trump.
Avec les pancartes, les 3 degrés.
Reportage de Rosalie Lafarge à Bayonne. Deux combattants du mouvement chiite libanais Hezbollah et un Iranien ont été tués dans des raids menés par Israël en Syrie la nuit dernière sur les environs de la capitale Damas. Information que l'on doit à l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Il y a 2 ans, près de 750 000 Rohingyas fuyaient les violences de l'armée birmane. Un nettoyage ethnique selon l'ONU. Ils sont encore des centaines de milliers au Bangladesh à survivre dans des camps et à faire en sorte que nous n'oublions pas le traitement qu'ils subissent. Ce matin, 200 000 des 600 000 Rohingyas du camp de Kutupalang ont marché 2 ans après leur exil forcé. Quant à ceux qui ont regagné la Birmanie, ils souffrent eux aussi de la répression constante orchestrée par les autorités birmanes, comme le précise au micro de Daniel Epstein, Nicolas Becklin, porte-parole pour Amnesty International en Asie.
En Birmanie, il y a toujours plus de 170 000 Rohingyas qui ont été répatriés du Bangladesh, mais qui vivent toujours dans des camps, qui n'ont pas la liberté de se déplacer, qui ne peuvent pas travailler, qui ne sont pas reconnus comme des citoyens. Et donc les promesses du gouvernement birman d'accueillir n'est absolument pas à prendre au sérieux. Je crois qu'il est très important de souligner le rôle positif que le Bangladesh a eu en acceptant ces réfugiés. Simplement, c'est la 3e grande vague d'exode au cours des 50 dernières années. Donc, on ne peut pas laisser une situation où un pays décide de renvoyer dans un pays tiers une minorité ethnique qu'il ne reconnaît pas comme ses propres citoyens. C'est un précédent extrêmement dangereux. On le voit aujourd'hui avec la façon dont la Chine traite sa minorité ethnique oui, dans le nord-ouest de la Chine, avec plus d'un million de personnes dans les camps. On le voit au Cachemire, avec l'administration du président Modi qui a retiré le statut d'autonomie au Cachemire. Ce sont des situations graves qui demandent une réponse si on ne veut pas que ces pratiques se multiplient.
Nicolas Becklin, porte-parole pour Amnesty International en Asie. Cette question des Rohingyas sera approfondie en seconde partie du magazine du week-end présenté par Émilie Chaudet. Au dernier jour de l'université d'été du Parti Socialiste à La Rochelle, les militants phosphores encore et toujours sur la dynamique à privilégier pour sortir de l'ornière avec ou sans Bernard Cazeneuve dans le sillage de Raphaël Glucksmann ou encore avec pour boussole le ni isolement ni dépassement du premier secrétaire Olivier Faure. Élément de réponse avec ce reportage de Laurence Perron.
Des militants regonflés par les mots du premier secrétaire, ni isolement ni effacement. À défaut de faire une vraie ligne politique, ce sont les mots qui étaient attendus. Ici, Emma, militante parisienne.
Écoutez, il y a toujours des maladresses. Moi, ce que je vois, c'est qu'il était là aujourd'hui, qu'il était là avec nous, qu'on a mené une super belle campagne l'année dernière, cette année, et que surtout aujourd'hui, il siège au Parlement européen et qu'il est avec le groupe socialiste. Moi, ce que je vois, alors, il y a peut-être des maladresses, mais comment dire, pour moi, c'est insignifiant.
Raphaël Glucksmann a reconnu une certaine maladresse, mais sur le fond, il ne lâche rien. C'est d'une certaine manière son rôle dans cette refondation, tenter de faire bouger les lignes.
Il faut dépasser les structures partisanes existantes. Il ne faut pas se retrouver en 2021 à découvrir qu'on a plusieurs candidats qui représentent la social-écologie.
Une fédération de gauche, une fédération populaire, comme certains...
Ouais, ça s'inscrit dans la tradition socialiste. Non, Jean-François Mitterrand, que je n'ai pas l'habitude de citer à toutes les sauces, eh bien, quand il a créé le Parti Socialiste, c'était aussi un dépassement de la SFIO.
Il y aura des frictions, des tensions, le premier secrétaire n'en fait pas mystère. Et à écouter Louis, qui milite dans le Val d'Oise, oui, le débat du dépassement n'est pas clos.
Il n'y a pas dépassement, il n'y a pas des passants, c'est un parti qui travaille, qui fait une ligne politique, et après tout ça, la suite, ça viendra naturellement. On n'est pas là pour faire de la stratégie, justement. Je pense qu'il faut qu'on change de ce modèle d'avant. On était censé dire oui, il faut qu'on mette telle personne, qu'on aille directement à l'élection. Nous, ce qu'on fait, ce qu'on a fait avec les élections européennes, c'est qu'on a préparé, on a travaillé sur le fond. La stratégie, qui sera candidat, comment on fera quoi, ça vient naturellement après, quand on a fait du fond, quand on a fait de la politique.
On peut compter sur la rentrée des parlementaires socialistes début septembre pour d'autres disruptions. Là, ce sera l'entrée en scène de ceux qui entendent faire une vraie rampe de lancement pour l'ancien Premier ministre Bernard Cazeneuve.
Laurence Perron à La Rochelle, quelques mots de la météo de l'après-midi pour refermer ce journal. De fortes chaleurs en vue, grisailles persistantes sur une partie de la Bretagne. Température maximale comprise entre 28 et 33 degrés en moyenne, 35 voire 37 degrés dans la région Centre-Val-de-Loire. Cette édition a été préparée avec M. Le Chili, à la technique Alice Sayed.